Bonjour à tous. De la part du CERLIS de l'Université Paris-Descartes et de la Vie des idées, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce débat autour des notions de culture et pauvreté aux perspectives transatlantiques. Alors, je remercie tout d'abord nos invités, Michel Lamont, professeur à l'Université de Harvard, et Hugues Lagrange, directeur d'études au CNRS, qui nous ont fait le plaisir d'accepter une invitation à l'échange, à la discussion autour de cette question, de cette notion de la culture de la pauvreté, sur laquelle je voudrais dire quelques mots en introduction, de manière à simplement cadrer nos échanges et essayer de trouver un point, ou en tout cas un horizon de discussion sur lesquels les différentes positions qu'ont adoptées Hugues Lagrange et Michel Lamont et un certain nombre de ses collègues puissent résonner et que tous leurs enjeux puissent apparaître en pleine lumière. Alors d'abord juste un petit mot de la part, donc le débat se fait sous les auspices, est organisé sous les auspices du CERLIS et de la Vie des idées, donc je veux juste dire un petit mot d'amitié à François de Saint-Guy, qui est directeur du Centre de recherche sur les liens sociaux et qui, pour des raisons de santé indépendantes de sa volonté, ne peut pas être présent aujourd'hui. Alors il tenait à vous saluer et à remercier les intervenants pour avoir accepté de venir participer à ce séminaire. Il regrette de ne pas être là avec nous. Je regrette également fortement qu'il ne puisse se joindre à nous. Alors, la question qui nous réunit, la question de la culture de la pauvreté, vous voyez, est une vieille question dans l'histoire des sciences sociales. Il suffit peut-être de se reporter à un ouvrage que j'ai découvert récemment, l'ouvrage d'Alice O'Connor sur la connaissance de la pauvreté aux États-Unis, pour savoir que l'ensemble des recherches sociologiques presque qui ont été menées dans ce pays, aux États-Unis depuis plus d'un siècle, sont travaillées par des chaînes culturelles, par une mise en avant des processus d'acclimatation des différentes minorités à un creuset national par rapport auquel il leur faut accepter un certain nombre de traits pour s'assimiler. Mais cette question de la culture de la pauvreté, au-delà d'avoir travaillé les différentes recherches qui ont été menées depuis l'école de Chicago, elle est apparue de manière explicite, d'abord dans les travaux de l'anthropologue Oscar Lewis, un anthropologue bien connu pour ses monographies qui ont eu un succès mondial, une monographie de famille mexicaine ou portoricaine dans la culture de la pauvreté. Donc l'anthropologue Oscar Lewis avait proposé une notion de la culture de la pauvreté comme un ensemble de caractéristiques, de traits comportementaux, moraux, qui caractérisaient les personnes en situation de pauvreté ou de très grande pauvreté, et qui au fond, et c'était la spécificité que Lewis soulignait dans ses travaux, agissaient par-delà les générations. C'est-à-dire la culture de la pauvreté, c'était un ensemble de caractéristiques qui marquait les individus, qui était d'abord une adaptation à des circonstances défavorables, mais qui avait un effet d'inertie. Et du coup, d'effet de circonstances extérieures, la culture devient, dans cette perspective, la cause de la reproduction intergénérationnelle de la pauvreté. Alors, cette thèse a été développée par de nombreux travaux. Lewis lui a donné une extension quasi générale. Il en a fait un schéma anthropologique majeur au fur et à mesure que sa carrière se développait et prenait une dimension internationale. Mais cette notion, elle n'a pas eu simplement un destin scientifique ou un destin de catégorie anthropologique. Elle a eu également, et c'est là, je pense, que le point, un des points d'ancrage par rapport à la situation contemporaine qui nous intéresse le plus, elle a eu un destin politique extrêmement fort du fait, et je crois qu'on peut le dire de cette manière-là, de la récupération politique dont cette thèse a fait l'objet dans le dernier tiers de siècle aux États-Unis. Alors, qu'est-ce à dire ? Simplement que la culture de la pauvreté, ensemble de traits qui maintiennent les populations dans des situations de vulnérabilité, en France on dirait d'exclusion, je crois sans aucune difficulté, la culture empêche les individus de saisir, y compris les opportunités qui pourraient leur être accordées par des politiques publiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la culture de la pauvreté, elle produit une explication, on va dire, interne de la pauvreté, interne aux populations qui subissent la pauvreté. Et donc, pour un ensemble d'acteurs politiques, d'entrepreneurs de morale politique aux États-Unis, la culture de la pauvreté a été finalement un prétexte ou un alibi pour condamner a priori toute politique sociale en faveur notamment de la minorité noire sur laquelle les débats se sont concentrés à la suite d'un rapport fameux et sur lequel l'un et l'autre vous revenez dans vos travaux, le rapport du sénateur Patrick Moynihan, donc La famille noire, qui est paru en 1965 et qui a fait l'objet d'un débat extrêmement vif et un débat dont on retrouve la trace, y compris dans les publications les plus contemporaines. Donc, la culture de la pauvreté, c'est à la fois une notion qui a été forgée pour rendre compte, pour décrire, pour expliquer les comportements des populations en situation de pauvreté, et c'est un argument qui a été mobilisé dans le débat public et politique, et on peut le dire assez simplement, contre les politiques sociales qui avaient été mises en place dans les États-Unis de la seconde moitié du XXe siècle. Donc, la culture de la pauvreté, c'est un thème, c'est une notion qui a une histoire qui n'est pas neutre dans les sciences sociales du XXe siècle, et notamment aux États-Unis. Et c'est très frappant d'avoir constaté, et c'est ça qui a donné, je crois, l'envie d'organiser ce débat aujourd'hui, c'est qu'on a vu un retour de la question de la culture de la pauvreté, à la fois sur l'agenda scientifique, académique, sociologique d'un côté, mais aussi, et peut-être du fait de l'écho ou du succès qu'ont rencontré les travaux auxquels Hugues Lagrange et Michel Lamont ont participé, eh bien, cette notion est revenue, ou est venue, pour ce qui concerne la France, sur l'agenda politique, à la suite donc de la publication, notamment du déni des cultures, et je viendrai tout à l'heure sur l'ensemble de recherches que Michel Lamont et un certain nombre de ses collègues ont coordonnées. Donc, en 2010, la culture de la pauvreté est apparue, alors, soit l'effet de très grandes nouveautés dans le contexte français, soit l'effet de retour d'un débat dans le contexte américain, est apparue comme une explication, comme un facteur à mobiliser dans la compréhension des phénomènes de pauvreté dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a eu une réviviscence d'un débat des années 60 et 70, qui est venu ressaisir l'actualité de nos disciplines et l'actualité des débats publics, politiques, les polémiques, les discussions très fortes qui ont accompagné la publication de vos travaux, je crois, sont là pour montrer qu'on est dans des recherches qui dépassent très largement le simple cadre de la vie et de la polémique interne au monde académique. Donc, ces deux propositions, alors il y a d'un côté Le déni des cultures, le livre de Hugues Lagrange qui est paru à l'automne 2010. Je crois que, sauf si vous vivez sur une autre planète, vous en avez déjà entendu parler au moins un petit peu, étant donné les débats et les échos qu'a eu ce travail. Je crois que ce sera l'occasion d'y revenir et peut-être aussi pour vous, Hugues Lagrange, de clarifier un certain nombre de choses à la fois sur le contenu et sur la réception de ce travail. Et de l'autre côté, Michel Lamont donc, a coordonné avec ses collègues David Harding et Mario Small un ensemble de recherches qui ont été compilées dans un numéro des Annales of the American Academy of Political and Social Science, donc un numéro de cette revue prestigieuse et qui a donné lieu, là je crois aussi, à des débats qui ont largement excédé la sphère académique, puisque des membres du Congrès, je crois, ont discuté ces travaux pour essayer de prendre en compte l'apport de la recherche. Là, je crois qu'on pourrait, d'un point de vue français, être très éveillé par ce type de démarche et de confrontation entre acteurs scientifiques et acteurs politiques. Donc, ces démarches s'inscrivent pour l'un et pour l'autre dans des trajectoires de recherche très longues. Michel Lamont a publié de nombreux ouvrages, ça serait évidemment trop long de les mentionner tous, simplement en français on trouve son ouvrage sur la morale et l'argent, sur les valeurs des classes moyennes et classes moyennes supérieures, un ouvrage sur la dignité des travailleurs où elle avait exploré de la même manière les valeurs qui sous-tendent la vision du monde des ouvriers aux États-Unis et en France, entre autres recherches, parce qu'il y en a évidemment beaucoup d'autres et de plus récentes qui pourraient intéresser la discussion. Hugues Lagrange est un sociologue qui a d'abord travaillé, je crois, sur la sexualité et les modes de relation des adolescents avant, au début des années 2000, de réorienter ses travaux sur les questions de sécurité, des demandes de sécurité. C'était le titre d'un livre paru à la République des idées. Et plus récemment, sur les inégalités, vous aviez coordonné un ouvrage dans la collection Le lien social des presses universitaires de France avant de publier Le déni des cultures au Seuil. Donc, ce que je vous propose comme règle du débat, après à cette brève introduction, c'est de donner la parole pour une demi-heure à Hugues Lagrange, qui ouvrira le débat. Ensuite, d'avoir peut-être quelques échanges ponctuels et informatifs à la suite de cette première intervention. Puis de donner la parole pour une demi-heure à Michel Lamont, à la suite de laquelle nous aurons un débat général. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre présence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hugues Lagrange, je vous cède la parole pour votre intervention.
Merci de l'invitation. Je vais essayer de parler assez fort, c'est une voix qui est un peu sourde, j'espère qu'elle montera en puissance. La culture de la pauvreté ou les cultures de la pauvreté, je crois qu'on a écrit les cultures de la pauvreté, ce qui me conviendrait assez bien, parce que je pense qu'il s'agit d'un pluriel. Précisément, je vais partir de la façon dont les choses me sont, si je puis dire, dont je les ai rencontrées, dont elles sont venues à moi, sinon dans l'autre sens, dont je suis venu à elles. Dans un article très ancien, Robert Merton expliquait les comportements, et en particulier les comportements déviants, en opposant une convergence des valeurs et une divergence sur les moyens de les atteindre. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas toujours dans ce schéma-là, bien que j'ai eu beaucoup de sympathie pour cet article de Merton de 1938. Alors, je ne vais pas revenir tout de suite sur la définition de la culture, peut-être nous aurons l'occasion d'y revenir. Je souhaite partir de ce qui m'a amené à rencontrer ces cultures de la pauvreté, et à interroger au regard de ce que j'observais cette notion. Et je vais partir des définitions, ou de la définition qu'en donne Oscar Lewis. Elle est, à mon sens, j'ai été frappé d'une grande précision, j'ai été fasciné, comme beaucoup d'entre vous, Nicolas l'a rappelé, par les travaux de Lewis qui ont été publiés en français. Je dois dire ça comme ça, c'est le rêve d'un sociologue quand il fait du travail de terrain. J'aimerais bien faire des entretiens qui aient la qualité, le caractère complètement étonnant de ceux de Lewis dans Les Enfants de Sanchez ou dans La Vida. Mais on va rester un peu plus théorique aujourd'hui. Et si on reprend les définitions que Lewis donne de la culture de la pauvreté, pour moi c'est assez intéressant et ça mérite d'être rappelé, même si le débat actuel, et Michel Lamont y reviendra certainement, enfin développera certainement sur ce point, s'est éloigné de ces définitions-là. Alors Lewis pensait effectivement que la culture de la pauvreté, il parle au singulier, transcende les différences régionales et nationales, les oppositions ville-campagne, et qu'elle présente de remarquables similitudes concernant les structures familiales, les relations interpersonnelles, les systèmes de valeurs, les façons de dépenser. Il donne une série de 5 critères à travers lesquels la culture de la pauvreté peut naître, sans dire que c'est des conditions exclusives, mais c'est les conditions qui, du point de vue de Lewis, paraissent les plus favorables à l'émergence de culture de la pauvreté. Une économie basée sur l'argent liquide, les salaires et la production en vue de bénéfices, un taux de chômage constamment élevé et de sous-emploi de la main-d'œuvre non qualifiée, des bas salaires, l'incapacité de fournir une organisation sociale, politique et économique pour une population à bas revenus, et l'existence d'un système de parenté bilatéral plutôt qu'unilatéral. Ce dernier point est d'ailleurs assez intéressant. C'est celui qui m'a le plus frappé quand j'ai travaillé moi-même dans les quartiers pauvres, parce que je commençais à rentrer en contact avec ça. Je me suis dit, quoi, système de parenté bilatérale plutôt qu'unilatérale. Quand on n'est pas anthropologue de formation, mais plutôt sociologue, on n'est pas tout de suite à l'aise avec ça. Cela dit, quand on est en contact avec des populations issues des migrations africaines, on se rend compte assez vite que cette différence a une pertinence. Et pour Lewis, la culture de la pauvreté correspond à l'existence de systèmes de parenté bilatérale parce que ce sont des systèmes de parenté. Il l'explique dans une petite note, tout ça est tiré de la postface à l'édition de La Vida chez Gallimard en 83. Il explique que dans les systèmes agnatiques, unilatéraux, en ligne masculine, il y a de fortes solidarités, il y a une forte cohérence du groupe. En revanche, dans les systèmes bilatéraux, on a une beaucoup moins grande cohérence du groupe qui se manifeste aussi bien dans une instabilité de la forme familiale que dans une moindre capacité, par exemple, de vengeance du groupe. Moi, j'observais des phénomènes où j'avais l'impression que dans ces familles que j'observais dans les quartiers pauvres de la vallée de la Seine, il y avait des systèmes de vengeance assez forts et marqués par une solidarité agnatique liée au fait que quand on choisit une ligne paternelle ou maternelle, en l'occurrence paternelle, on élimine une série de collatéraux et on définit un groupe qui est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus soudé qu'en ligne bilatérale où vous voyez bien que vous commencez par 2, 4 au niveau des grands-parents, 8, etc. Ça évolue en puissance de 2, ça va vite à des niveaux de nombre considérable. Donc ça définit pas un groupe comme tel, il faut redécouper dedans ce que fait un système de filiation unilatérale. Et puis il y avait un aspect qui était lié à ça, c'est que Lewis insiste beaucoup là-dessus, sur l'implication des femmes dans la prostitution et le machisme. Et le machisme est indissociable des cultures mâles. Il y a eu des travaux de Perestiani intéressants là-dessus concernant le nord de la Méditerranée. Et là aussi, ça m'a troublé parce que ce n'est pas du tout ce que j'observais. Le machisme, ça implique, entre autres, l'affirmation d'un besoin de puissance sexuelle qui passe par des conquêtes féminines. Et il implique, de la part des hommes, un abandon fréquent ou plus fréquent de leur responsabilité paternelle. En Amérique latine, on parle facilement del hombre del torno, l'homme qui tourne d'une femme à l'autre, ce qui a peu de rapport, même si en apparence ça pourrait en avoir, avec l'homme polygame qui effectivement visite les femmes tour à tour, mais dans un cadre complètement institué, pas du tout dans le cadre d'un abandon de responsabilité envers une femme pour s'attacher à une autre. Et le machisme est lié également, ou la culture de la pauvreté, je ne les confonds pas, mais la culture de la pauvreté et le machisme sont liés à des structures familiales matrifocales, c'est-à-dire des structures dans lesquelles le lien mère-enfant est un lien très fort et le pivot de l'organisation familiale et le seul pôle stable au fond. À une instabilité endémique du mariage, je l'ai dit, à des grossesses précoces. Cet ensemble de traits est assez intéressant. Lewis le trouve aussi bien à Porto Rico qu'au Mexique. On le retrouve, je crois, à des degrés moindres, mais sans doute à des degrés élevés, dans les familles noires du sud des États-Unis, pour lesquelles qui ont été largement constituées par des esclaves déportés à la Jamaïque. Esclaves qui venaient pour une très très large part des zones de l'Afrique de la forêt, c'est-à-dire des zones de tradition matrilinéaire ou bilinéaire. Encore une fois, je je ne cherche pas à établir un rapport de causalité directe et à faire des raccourcis sur une histoire aussi complexe et aussi longue, mais à suggérer que, quand même, on peut s'interroger là-dessus, pourquoi c'est plutôt c'est plutôt à partir d'esclaves qui ont été capturés dans les zones matrilinéaires ou bilinéaires que se sont construites dans le Nouveau Monde des structures matrifocales dans lesquelles des hommes dévalorisés ou dans une situation de difficulté d'accès à l'emploi, sont tentés d'esquiver des responsabilités paternelles. Et on est au moins amené à s'interroger, à mon sens, sur les raisons pour lesquelles, éventuellement, dans les quartiers noirs de l'Amérique du Nord contemporaine, ces traits ont pu ou non persister. Par rapport au débat nord-américain, ce qui me semble être tout à fait intéressant, je ne reprends pas ce qui a été dit sur le rapport Moynihan, la récupération politique, puis la façon dont Murray Einstein et ceux qui se sont qui ont durci beaucoup le débat dans les années 80 sont intervenus. Mais si on regarde l'évolution des positions, du moins celle que j'ai perçue d'un sociologue comme William Julius Wilson, on voit sur ce point-là et sur la manière dont il prend en compte la prégnance éventuelle de facteurs culturels dans le fonctionnement des quartiers pauvres ghettoisés nord-américains, on voit une évolution. Wilson, The Truly Disadvantaged, en 87, insiste beaucoup sur l'importance du déficit qui se situe au niveau de l'emploi. Les hommes ne trouvent pas d'emploi, donc les femmes ne trouvent pas dans les quartiers ghettoisés de partenaires convenables pourvus d'une capacité à être un père et assumer leur charge de père. Et il y a des naissances dans un cadre monoparental beaucoup plus que hors du ghetto. L'éducation des enfants dans des familles monoparentales à l'adolescence particulièrement est problématique. Et finalement, on va trouver plus de dérives, d'usage de drogue, d'implication dans de la délinquance et de school dropout ou d'échecs scolaires. Pour Wilson, c'est du point de vue de manière centrale le déficit d'emploi dans les centres-villes américains qui est le facteur. Il donne une explication structurelle et si mes recherches m'amenaient à des constats assez convergents du point de vue de l'association, délinquance, etc., j'ai pendant un moment adhéré complètement à l'explication de Wilson. Et puis progressivement, je me suis dit, mais il y a quand même, est-ce qu'effectivement le déficit d'accès à l'emploi est aussi central? Est-ce qu'on peut se situer pour comprendre ce qui se passe dans les quartiers pauvres d'Île-de-France, en l'occurrence? Est-ce qu'on peut prendre comme matrice interprétative quelque chose qui est fondamentalement construit autour du rapport à l'emploi, au marché du travail, et surtout, est-ce que ça rend compte des échecs en termes de socialisation? Et j'ai été progressivement convaincu que c'était en tout cas insuffisant. Et c'est assez intéressant de voir qu'en 2008, quand Wilson revient sur la question, il introduit une bonne dose de culturalisme dans son argumentation. Il insiste sur justement ces mécanismes pérennes de transmission d'habitudes, comme vous voudrez, et de schèmes interprétatifs de la réalité, de sa place, de la place de chacun et des rapports sociaux. Et il fait une relecture du rapport Monihan où il dit franchement, je n'avais pas eu ce rapport avec sinon équanimité. Enfin, il révise, il me semble, partiellement son jugement sur le rapport Monihan. C'est à partir de ça, et donc pendant un moment d'un cheminement qui m'a beaucoup rapproché de l'analyse de Wilson pour comprendre les dynamiques de dérive scolaire, d'absentéisme, de surimplication dans la délinquance dans les quartiers pauvres, et puis le moment où je me suis dit que ça collait pas complètement, que j'ai commencé à repenser par exemple à cette petite allusion de Lewis aux structures familiales et à me dire il faut travailler un petit peu plus sérieusement sur ces structures familiales. Si on s'intéresse à ces quartiers pauvres et immigrés d'Île-de-France, d'abord il faut savoir qu'ils sont, pour ce qui est des populations subsahariennes, en majorité peuplée par des populations venues de la zone du Sahel et non pas de la zone de la forêt. J'ai fait quelques exposés en Inde et au Brésil. Alors, en Inde et au Brésil, c'est carrément du chinois complet. Je veux dire, ils sont noirs, non ? Ça décrit à peu près tout. Au Brésil, même la distinction Maghreb, la distinction Maghreb-Afrique subsaharienne n'était pas une évidence. Alors si on ajoute Maghreb, Sahel, Afrique de la forêt, et puis si on se dit mais l'Afrique de la forêt a des hétérogénéités entre le golfe de Guinée et la région des Grands Lacs, il y a des différences culturelles importantes, là on est complètement perdu. Mais justement, quel type de distinction faire ? Il me semble que pour celui qui s'intéresse à la socialisation dans nos quartiers pauvres, la distinction forte, topique, est plutôt celle qui distingue le Sahel de la zone de la forêt. Contrairement à tout ce que décrivait Lewis, j'ai un tableau à peu près, en termes familiales, à peu près, qui est à peu près le négatif absolu de celui que donne Lewis. Dans ces familles-là, il y a une forte stabilité familiale. Pas de père abandonnique ni absent symboliquement. Il y a des taux de monoparentalité qui sont plus faibles qu'ailleurs, beaucoup plus faibles qu'ailleurs. Il n'y a pratiquement pas de grossesse adolescente. Un gros problème au Brésil, par exemple, aujourd'hui, c'est un assez gros problème aux États-Unis. Ce n'est pas un problème dans les quartiers pauvres habités par des familles du Sahel. Il y a une organisation patrilinéaire, on ne peut pas être plus loin de l'organisation matrifocale, et un fonctionnement des solidarités en ligne paternelle fort. Il n'y a pas d'effondrement de modèle de rôle masculin, au contraire. Par ailleurs, il y a des points communs entre les situations de part et d'autre. Des taux de chômage élevés et durables, ce que relevait Wilson. Je l'ai dit sur les autres aspects des défis. À partir de cette opposition, l'idée que nos quartiers d'habitat social, on avait eu ce débat sur le ghetto, finalement, bon, c'est ce qui sort dans la presse, ces quartiers où il y a beaucoup de familles issues d'immigration du Sud, même s'ils ne sont pas homogènes sur le plan ethnoculturel, on dit c'est des ghettos, et finalement, on s'est beaucoup référé, même s'il y a eu un débat pour rejeter cette similitude, on s'est beaucoup référé au ghetto nord-américain. Et le débat ressemblait un peu à un débat sur c'est moins homogène en France, c'est plus petit, c'est pas aussi concentré, mais au fond, ça fonctionne pas d'une façon tellement différente. Ce qui m'apparaît, c'est que ça fonctionne d'une façon radicalement différente, que c'est pas un problème de taille, que, évidemment, je sais pas, Bronzeville à Chicago est d'une taille qui n'est sans commune mesure avec le Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. On pourrait dire que la Ravi à Bombay aussi est une, sans comparaison avec 1,5 million de personnes. Mais le problème n'est pas là. Le taux de famille. Alors, il y a eu des travaux historiques, entre autres ceux de Stephen Ruggles, sur les conditions d'éducation des enfants noirs et des enfants blancs en termes de structure familiale, qui montre que de 1960 à 1980, on est passé de 30 à 50% d'enfants noirs élevés dans une famille élevée par un seul de leurs deux parents ou aucun de leurs deux parents. C'est des choses qu'on ne retrouve absolument pas dans les quartiers noirs habités par des populations du Sahel. On trouverait des situations plus similaires dans les contextes où il y a de concentration de populations issues du golfe de Guinée, entre autres des deux Congos, où il y a une forte présence antillaise. Mais ce n'est pas, c'est pas la majorité des quartiers, et certainement pas la majorité, et encore moins la majorité des quartiers dans la vallée de la Seine. À partir de là, il ne s'agit pas donc d'un moindre ghetto, il ne s'agit pas, par rapport à ce que disaient les pouvoirs publics dans cette période-là, finalement reprenant un peu une thèse culture de la pauvreté, il y a effondrement familial, effondrement de l'autorité, démission des parents, un déficit éducatif généralisé, il faut remobiliser les familles, etc., dans ces quartiers pour apporter une réponse éducative à la hauteur des enjeux. Ce diagnostic-là m'apparaît radicalement faux. Ce qui arrive dans ces quartiers, me semble-t-il, est lié beaucoup plus. C'est là qu'on revient à la question posée sur valeurs et moyens, sur une divergence des valeurs, sur des constructions en valeurs qui différencient une fraction de la population de ces quartiers pauvres, de fractions larges du courant dominant de notre société, sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur rapport d'âge entre les hommes et les femmes. Je veux dire, dans les familles issues du Sahel, on a un écart moyen d'âge entre hommes et femmes qui est de presque 13 ans, un écart énorme. On ne peut pas construire des valeurs ordonnées autour de l'idée de parité, d'autorité parentale partagée avec de tels écarts d'âge moyens. Possible en quelques cas, ce n'est pas possible en moyenne. La taille des fratries n'a strictement aucun rapport. Là aussi, c'est des choses qu'on devait prendre en compte. Le contexte éducatif des enfants qui sont élevés dans ces familles n'est pas du tout le même. Je pourrais prendre beaucoup d'autres aspects. Je prends là que des aspects morphologiques les plus incontournables, les plus faciles à mettre en évidence, mais qui, comme tels, sont très éclairants sur les déficits de socialisation, sur les échecs éducatifs, sur les implications dans la délinquance. Quand on est élevé dans une famille de 7 personnes, quand on est élevé dans une famille de 2,3 personnes, ça ne pose pas les mêmes enjeux et les mêmes possibilités en termes éducatifs. Alors que les valeurs dominantes dans un pays sont la subordination de la jeune génération à la génération aînée à travers l'idée que la jeune génération doit obéissance à ses pères et mères, non pas en fonction de leurs compétences, mais en fonction de ce qu'ils sont dans le rapport généalogique. Et qu'on a d'autre part des familles où, et c'est là qu'on rencontre culture et interaction avec une culture différente, des familles où il y a une forte différence d'âge entre les époux, mais où, en immigration, et c'est là l'effet de l'interaction, les familles ont été démembrées. Les sœurs des mères et des pères, d'ailleurs, ne sont pas là. Les hommes ne fonctionnent pas comme un collectif éducatif. Les pères classificatoires n'existent pas. Et les tempérances qu'introduisaient les frères de la mère par rapport au père n'existent pas non plus. Si un homme tape sur la gueule de sa femme, elle n'a pas ses frères, je veux dire, est haut. Ça, c'est un effet qui conjugue à la fois le fait qu'en immigration, et c'est ça qui est un peu compliqué, se transporte une série de caractéristiques de la culture d'origine, par exemple cette différence d'âge, par exemple la taille des fratries, c'est tout à fait important, mais que ne se transportent pas toutes les caractéristiques, par exemple les fonctionnements et toutes les pondérations qu'introduisent les fonctionnements collectifs et les fonctionnements de classe d'âge en Afrique. Et c'est ce porte-à-faux qui, pour moi, est créateur, est largement créateur de dysfonctionnements familiaux. Bien sûr, il y a des aspects qui peuvent être, au fond, assez inadéquats. Quand des familles ont très peu de bagages scolaires, c'est pas la peine de faire un dessin, c'est pas facile d'éduquer des enfants et de leur permettre de réussir dans une société de la connaissance qui exige qu'on investisse beaucoup sur chaque enfant et qu'on ait peu d'enfants sur lesquels faire cet investissement lourd. Bon, ça c'est évident. Mais le porte-à-faux, c'est un peu plus subtil et ça n'a pas été perçu parce que, me semble-t-il, ça impliquait d'entrer dans une prise en compte des différences culturelles et donc de sortir de cette espèce de neutralité axiologique qui impose dans le contexte français ou qui imposait dans le contexte français de regarder tous les systèmes de valeurs comme équivalents. Le problème n'est pas de les hiérarchiser, le problème est de dire que dans un contexte où il y a dans une société un certain nombre d'enjeux, il y a des valeurs qui vont avoir qui vont favoriser plus la réussite scolaire ou qui vont favoriser plus d'autres aspects que d'autres. Et encore une fois, par rapport à ça, si on prend les orientations qui ont été largement celles qui ont dominé dans la pensée de gauche, ces questions-là ont été peu aperçues. Il me semble que la pensée de gauche a, je vais pas être trop long, il me semble que la pensée de gauche a aussi, comment dire, a aussi tendu à représenter l'espace national comme un espace uniforme. Je pense particulièrement aux travaux que je trouve à beaucoup d'égards très estimables et très intéressants de Robert Castel et tout son développement sur la désaffiliation. Ça a été repris par d'autres et amplifié ou développé, etc. Il en est certainement un représentant très, très intéressant et qui a influencé la gauche en France et qui a conduit à porter de façon uniforme sur l'ensemble du territoire le diagnostic d'un effritement de la société salariale qui, en même temps qu'il impliquait une réduction des garanties professionnelles, impliquait au-delà la construction d'un individualisme négatif, la construction d'un individu par défaut, en déficit, l'altération. Il l'a écrit d'une façon plus formelle dans La montée des incertitudes, l'altération des structures familiales et en particulier de la cohésion conjugale. Là aussi, une telle analyse menée ou portée d'une façon systématiquement sur le territoire m'a paru complètement en porte-à-faux quand je considérais les familles auxquelles j'étais confronté. J'ai essayé de vérifier d'une façon à la fois, je veux dire, approximative ou grossière, mais aussi pragmatique, l'idée de Castel. Est-ce qu'il y a un lien entre, au niveau des quartiers, des petits quartiers, des micro, des iris, entre les taux de chômage et les taux de familles monoparentales? J'avais pris l'ensemble des iris, en fait 650 des Yvelines. Là, on a une corrélation, un lien d'ensemble qui est indiscutablement va dans le sens de Castel. Ça ne dit rien du mécanisme qui est complexe. Est-ce que c'est d'abord des difficultés dans l'univers du travail qui vont amener ensuite une altération de la relation conjugale ou de la structure familiale ou le contraire, mais peu importe, le lien existe. En revanche, si vous prenez simplement à l'échelle de l'ensemble des Yvelines, les quartiers dans lesquels il y a 20% de population immigrée, évidemment, avec les données de l'INSEE, on ne peut pas prendre en compte les origines culturelles. Mais prenez 20% d'immigrés, et ça vous donne un très bon indicateur des quartiers immigrés du Sud, avec une forte immigration africaine. Et là, vous avez strictement la relation inverse, c'est-à-dire pas de lien, ce qui correspond à ce que... pas l'intuition, mais l'observation quotidienne que je faisais dans ces quartiers renvoyait. Il n'y avait pas altération de la structure familiale, il y avait plutôt un surfamilialisme que j'observe très 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 bien, où j'observe la confirmation dans l'analyse de l'enquête trajectoire et origine, où je vois que quand on distingue Sahel et Golfe de Guinée, les degrés de familialisme, je veux dire ça en gros, des Sahéliens sont beaucoup plus forts. Autrement dit, et ça avait des conséquences, c'est que l'analyse de Castel, elle renvoyait dans le domaine de l'analyse des déviances et de la délinquance à l'idée qui était assez classique dans les années 60, au fond, le problème de la délinquance, c'est le problème de l'insuffisance du contrôle social, c'est le problème de l'insuffisance des liens interpersonnels. Et donc, les gens qui, à gauche, avaient adhéré à cette théorie, trop de turnover dans les logements sociaux, l'anonymat d'une société consumériste, etc., sont des facteurs qui favorisent la délinquance, ils ont très bien, ils ont embrayé sur l'idée de désaffiliation, ils ont vu une autre expression peut-être plus cohérente ou en tout cas plus adaptée à toute fin du XXe siècle. On dit, ok, ça fonctionne comme ça, et on a tartiné tout ce qu'on pouvait tartiner sur la façon dont on pouvait resocialiser ces quartiers. Mais ces quartiers étouffent d'hypersociabilité, bonding, si je puis dire, par fermeture sur eux-mêmes des liens sociaux, et ils crèvent de manque de liens avec le reste de la société, de coupure, d'isolement par rapport au reste de la société. L'analyse de la désaffiliation par rapport au quartier, elle est complètement en porte-à-faux. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de les désenclaver, peut-être, mais certainement pas de se focaliser sur la recomposition du lien social. Bon, j'avais beaucoup de développement.
C'est un élément de conclusion, voilà. On laisse ça pour le débat. Merci beaucoup. Alors... je pense qu'on comprend en vous entendant très bien l'impact, pourquoi votre travail sur le déni des cultures a eu un tel impact. C'est qu'au fond, il vient réinterroger une grille de lecture de la crise sociale qui s'était imposée au tournant des années 90 avec cette idée de désaffiliation, parler de suraffiliation, et ça nous oblige à remettre sur le métier de l'analyse sociologique un lien peut-être trop rapide entre crise du marché du travail, chômage de masse ou chômage d'exclusion et problématiques sociales, problématiques finalement de l'anomie qu'on avait vu ou qu'on avait cru pouvoir détecter. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de questions qui pourront revenir sur tel ou tel aspect de votre développement. Je me tourne maintenant plus directement vers Michèle Lamont, dont les travaux qu'elle a fait soit directement elle-même, soit avec d'autres collègues, et notamment avec Mario Smo, vous avez proposé en fait une analyse de la culture qui cette fois se situe peut-être pas tellement avec, par rapport à ce schéma de la relation avec le marché du travail, mais par rapport à l'unicité de la culture de la pauvreté, de la famille noire, telle qu'elle avait été diagnostiquée dans les années 60 et 70. On en revient à ce fameux rapport Moynihan, qui est un peu la pierre angulaire de ces débats dans le passé, en tout cas. Et il y a au moins un point, enfin, en écoutant Hugues Lagrange, il y a un point de lien que j'aperçois, qui est que malgré les différences de contexte, d'analyse, de type de méthodologie, et éventuellement de conclusion. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir le débat de fond sur qu'est-ce qu'on fait de la culture dans les sciences sociales ou en sociologie dès lors qu'on étudie la pauvreté. Mais il y a un élément qui me semble commun, c'est que vous également, une grande partie de votre analyse a consisté à pluraliser la culture. Hugues Lagrange a commencé son exposé en nous parlant des cultures de la pauvreté plutôt que la culture de la pauvreté, en montrant bien ces différences entre les configurations sociales, géographiques, familiales. Et vous, tout votre développement, donc dans ce numéro, donc j'ai oublié de dire le titre tout à l'heure, c'est « Reconsidering Culture and Poverty », donc reconsidérer les liens de la culture et de la pauvreté. On voit bien l'antériorité du débat sur lequel vous travaillez. Tout votre propos est de dire, au fond, on a une culture qui est d'abord plurielle et qu'il faut appréhender dans la diversité de ces manifestations. J'en dis pas plus et je vous cède la parole immédiatement, également pour une demi-heure environ.
Okay. D'abord, je veux remercier Nicole Adbou de m'avoir invité à participer à ce débat. Je passe l'année ici, en année sabbatique à Sciences Po, et dès que je suis arrivée au mois de septembre, plusieurs collègues m'ont parlé du livre de Hugues Lagrange qui venait tout juste de paraître à cette époque-là. Et au mois de mai, quelques mois plus tôt, on avait publié notre numéro spécial de sur Reconsidering Culture and Poverty qui avait aussi reçu beaucoup d'échos. Et c'était intéressant pour moi, en tant que sociologue de la connaissance, d'essayer de réfléchir sur les conditions de possibilité de ces deux débats qui émergeaient vraiment en parallèle l'un avec l'autre, quoique nés de contextes entièrement différents, et aussi non seulement de contextes sociaux et politiques différents, mais aussi de contextes conceptuels et disciplinaires différents. Alors, pour introduire la perspective que l'on aborde dans notre numéro et aussi la perspective que j'ai développée dans mes travaux antérieurs et que je suis en train de développer dans mes travaux futurs, je me suis dit que j'allais peut-être vous commencer à vous décrire un livre important qui est un peu un parallèle, s'attache à des sujets un peu semblables à ceux que Hugues Lagrange... sur lesquels il se concentre dans son livre. Je me suis dit qu'en première partie, j'allais vous présenter ce qu'on a fait, et puis après, plus tard, je donnerai quelques commentaires dans la deuxième partie du débat, c'est ça, sur le livre de Hugues. Alors, le livre dont je voulais vous parler, c'est un livre de Alfred Young, qui est maintenant le chair du département de sociologie à l'Université de Michigan, qui est un des grands départements, 50 personnes à peu près. C'est un ancien étudiant de Wilson, et de Julius Wilson, et il avait fait sa thèse sur un des HLM de Chicago, un des grands public housing projects, et il a publié un livre que j'aime beaucoup, intitulé « The Mind of Marginalized Black Men ». Et c'est une étude en profondeur d'un groupe de jeunes hommes, et les questions sur lesquelles ils se penchent, les questions à savoir comment est-ce qu'ils comprennent le processus de mobilité sociale dans lequel ils peuvent s'engager compte tenu qu'ils vivent dans un ghetto. Et il utilise des méthodes de la sociologie culturelle qui sont d'une certaine façon apparentées à l'anthropologie culturelle. Je vais vous expliquer les différences dans une minute. Et il montre que, il compare quels sont les cadrages. Il utilise le concept emprunté de Irving Goffman, le concept de cadrage, frame en anglais, pour saisir quelles sont les différentes façons par lesquelles ils peuvent s'imaginer des futurs possibles. Un de ces arguments les plus intéressants, c'est que ceux qui vont en prison sont en fait exposés à des répertoires culturels beaucoup plus larges que ceux qui y vont pas. Alors, un peu comme les contextes où, que Hugues étudie, c'est un milieu où il y a une hyper-socialisation dans le sens où les gens sont pris dans un ghetto, les uns sur les autres, tout le temps. Et il y a une culture de manque de confiance qui s'élabore, une culture de distrust qui est très, très accentuée. Mais aussi, ils pensent qu'il y a très peu de racisme aux États-Unis parce qu'ils ne voient jamais de blancs. Ils vivent les uns avec les autres. Alors, quand on les interviewe sur « est-ce qu'il y a beaucoup de racisme aux États-Unis? » Pas du tout. Alors, c'est une analyse qui est très intéressante en partie parce qu'il il démontre bien l'importance du type de répertoire culturel auquel les gens sont exposés et à partir desquels ils utilisent des outils ou ils développent des outils, des stratégies pour trouver des solutions aux défis auxquels ils font face. Et cet exemple-là est particulièrement important, je pense, parce que justement, je pense qu'une des différences les plus importantes dans la façon dont le débat a été posé aux États-Unis et la façon dont il est posé ici, c'est que depuis le milieu des années 80, il y a eu l'explosion d'un champ à l'intérieur de la sociologie qui s'appelle la sociologie culturelle, où ce concept de répertoire culturel est central. Et ce que le concept de répertoire culturel nous permet de faire, c'est de parler des univers culturels dans lesquels les gens baignent sans blâmer la victime. C'est-à-dire, ça nous permet de dire qu'on est exposé à des idées, comme par exemple l'idée de solidarité de classe, qui serait beaucoup plus disponible dans un contexte français que dans un contexte américain. Et que les individus, alors qu'ils font face aux défis qui structurent leur vie quotidienne, peuvent prendre appui ou mobiliser ces différents outils pour essayer de comprendre quelles sont les solutions qui sont à leur disposition. Alors, si j'analyse un peu la façon dont la question s'est posée pour nous dans la préparation d'un numéro spécial, c'était vraiment de dire aux experts de la pauvreté aux États-Unis qui sont en grande partie des économistes et des démographes, c'est-à-dire des gens qui ont une vision assez caricaturale de ce qu'est la culture, qu'il y a des outils très importants qui ont été développés au cours des 30 dernières années, qu'il y a des travaux importants qui ont été conduits en sociologie qui nous permettent de poser des questions différemment. Alors, on développe ce que nous, on définit comme une troisième voie, une troisième position, par rapport au débat de Moynihan qui a été évoqué un peu plus tôt, qui est de dire que ce n'est pas explication structurelle qui serait opposée aux explications culturelles. Il n'est pas question de nier l'importance de la ségrégation spatiale ou de la disparition des emplois. Évidemment, en tant que on veut développer des explications multicausales des causes de la pauvreté, et des explications qui tiennent en compte des facteurs structurels et culturels. Mais comment est-ce qu'on définit la culture dans ce contexte-là? On ne veut pas du tout le définir de la façon dont c'était défini dans le contexte de la culture de la pauvreté. Même que, je dirais qu'on s'oppose très fortement à la définition qui prévalait au cours des années 60, qui était une définition influencée par les travaux de Talcott Parsons, qui définissait la culture un peu comme une soupe dans laquelle on baignait tous, qui nous donnait des valeurs, que ces valeurs orientaient les actions. Alors, une espèce de soupe indifférenciée et qui souvent faisait, présumait qu'à chaque culture, à chaque groupe correspond une culture. Alors, c'est une approche assez durkheimienne de la culture qui est un de déterminisme environnemental qui minimise les différences qu'on trouve à l'intérieur des groupes. Alors, c'est dans ce contexte-là que Ruth Benedict, qui était influencée par le fonctionnalisme, parlait de la culture des Japonais. Et on pouvait parler de la culture des Noirs, de la culture des pauvres, de la culture des Français. Alors, nous, on ne dit pas du tout. En 2000, j'ai produit avec Laurent Thévenot un livre qui s'intitule « Rethinking Comparative Cultural Sociology, Repertoires of Evaluation in France and the U.S. » Alors, repenser la sociologie culturelle, répertoire d'évaluation en français aux États-Unis, où à travers 9 études de cas, on démontre de façon très systématique qu'on trouve aux États-Unis plus fréquemment certains types d'arguments qui sont mobilisés à travers un certain nombre de controverses et que les individus dans le contexte américain ont beaucoup plus grande probabilité de mobiliser ces instruments, qui sont des instruments qui ont à voir, des répertoires qui ont à voir avec, par exemple, les arguments de marché, que ce n'est le cas dans des situations parallèles en France où les gens auront plus facilement accès à des répertoires de nature civique. Alors, on comparait, par exemple, réponse au racisme en France et aux États-Unis, critique. Il y avait Nathalie Hennick, la sociologue de la culture, qui faisait partie du projet, qui avait fait une comparaison des réponses de la critique à l'art contemporain dans les deux pays, quelles sortes de critiques sont élaborées, la place et le type d'arguments moraux qui sont élaborés dans les deux contextes. Il y avait Abigail Sagui qui avait travaillé sur la ségrégation, la discrimination... Non, c'était sexual harassment, l'harcèlement sexuel en France et aux États-Unis, démontrant que dans le contexte des États-Unis, c'est critiqué à cause que ça empêche la productivité dans le milieu du travail, alors qu'ici, c'est critiqué parce que c'est une violence contre la personne. Alors, c'est ce type d'analyse qui nous a... Alors, ce qu'on a fait plus ou moins dans notre numéro, c'est de dire que la façon dont on peut parler maintenant du concept de culture a été influencée, a eu une influence profonde dans des travaux qui ont été publiés depuis le milieu des années 80, que plutôt que d'utiliser le concept de culture comme soupe à la Parson, en fait, on a un certain nombre d'outils analytiques qui nous permettent d'attaquer de façon beaucoup plus spécifique et empiriquement riche et détaillée les façons dont le processus de faire sens, meaning making, peut contribuer à la production de l'inégalité et de la pauvreté. Alors, cette approche est évidemment très influencée par les travaux de Bourdieu, mais bien au-delà de Bourdieu. J'ai mentionné faire sens, meaning making. On est très influencé par les travaux de Clifford Geertz, qui dit que les hommes sont on produit des webs of significance, des réseaux de signification. Alors, c'est une approche très phénoménologique qui est de dire la production de la vie sociale implique la production de sens au jour le jour. Et il y a aussi de l'institutionnalisation de sens. Il y a des organismes, il y a des institutions, il y a des policies, des politiques publiques qui, par exemple, facilitent la reconnaissance de groupes sociaux. Et on s'intéresse, en tant que sociologue, qui attaque les processus sociaux fondamentaux, de produire des explications de processus de production de la pauvreté qui mobilisent l'ensemble de ces outils analytiques. On ne veut pas en privilégier un par rapport à l'autre. Alors, quels sont ces outils? Le concept de cadrage, le concept de répertoire, le concept de frontières symboliques, capital culturel, narratif, institution, narratif plutôt récit. Alors, c'est un ensemble d'outils qu'on retrouve maintenant et qui sont utilisés ou de façon simultanée ou en alternance, mais qui, nous, notre argument est de dire, c'est des concepts qui ont été mobilisés, on a une très longue bibliographie, mais ces concepts n'avaient pas été synthétisés pour les économistes qui de plus en plus dominent le monde de la recherche sur la pauvreté aux États-Unis et les démographes. Et ces universitaires lisent très rarement la sociologie, pour des raisons qu'on pourrait discuter. Mais il y a aussi le fait que quand ils entendent le mot culture, ils pensent cultural studies, ils pensent postmodernism, ils pensent Madonna studies. Alors, ils pensent Derrida. Alors, ils ne veulent pas du tout lire ces choses-là. Alors, on a décidé de publier. C'est pour ça qu'on a fait le livre avec Les Annales, qui est un journal très prestigieux, mais aussi très interdisciplinaire. Et notre but, ce n'était pas du tout de parler à d'autres sociologues de la culture. Notre but, c'était de parler aux démographes, aux économistes, pour leur dire, réveillez-vous, il y a une littérature importante, dynamique, qui nous permet de comprendre beaucoup mieux quels sont les processus par lesquels la pauvreté est créée. Et on donne l'essentiel de notre numéro, c'est de décrire ces concepts et de donner des exemples de ce qui, de ce qu'on a appris à travers les études qui mobilisent ces concepts. De façon aussi à avoir un impact sur les politiques publiques. Alors, quand le numéro est sorti, il y a eu ce qu'on appelle un « congressional briefing », c'est-à-dire un lancement à Washington où tous les congressmen et leurs assistants étaient invités. Et ces congressmen, évidemment, votent sur toutes sortes de politiques sociales qui ont un impact sur la vie des pauvres. Alors, le but, c'était aussi de leur dire, pensez pas nécessairement que les Noirs violent les valeurs sacrées de la société américaine, qui sont American Dream, Individualism, Achievement, blablabla. En fait, certaines de ces études, par exemple, un livre par Sharon Hayes intitulé « Flat Broke with Children », montre que les pauvres ont accès à beaucoup de répertoires culturels, incluant les répertoires qui définissent le mainstream américain. L'individualisme, le consumérisme, il l'adore tout autant que l'américain moyen. Alors, le but, c'était vraiment de produire un changement social en utilisant ce livre comme moyen d'intervention. Alors, je pourrais vous prendre un peu de temps pour vous décrire quels sont les critères, les différents concepts qu'on décrit. Je ne sais pas si, en fait, je pense que c'est quelque chose auquel vous pouvez avoir facilement accès en consultant le site web de ANAL, où vous pouvez, en fait, avoir le numéro gratuitement. Je vais vous donner quelques petits exemples. Alors, mes co-auteurs, Mario Small. Mario Louis Small vient de Panama. Il a écrit sa thèse, qui est devenue un livre déjà assez célèbre, intitulé Villa Victoria, qui est une ethnographie d'un petit public housing project à Boston, qui est un projet où vivent des Portoricains. Et dans la littérature américaine, il y a eu un gros débat autour de la question des broken windows, des fenêtres brisées, et du désordre social. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent que les individus décident de s'impliquer dans leur communauté et d'essayer de participer et d'améliorer leur environnement malgré le fait qu'il y ait des fenêtres brisées, etc. Alors, lui découvre qu'il y a beaucoup de différences parmi les résidents de ce projet, des différences de cadrage. Alors, lui se sert du concept de frame. Il dit que certains d'entre eux perçoivent leur environnement comme un taudis, un ghetto, où il ne faut pas faire confiance à personne, où il vaut mieux s'enfermer dans son appartement et éviter tout le monde. Alors qu'il y en a d'autres qui sont impliqués. Alors, qu'est-ce qui explique la différence de ces deux types de cadres à travers lesquels ils perçoivent la même réalité? C'est une même réalité, mais il y a une multiplication, une multiplicité de cadrage ou de prisme à travers lesquels ils le perçoivent. Et ça, c'est un des arguments cruciaux qu'on élabore et par rapport auquel on s'oppose très fortement au culturalisme, qui est de dire qu'il y a toujours une multiplicité de cadres. Et beaucoup, les arguments conservateurs dans le contexte américain, ça a été toujours de critiquer les pauvres comme étant toutes les critiques que Nicolas a mentionnées, présentistes, incapacité de mettre l'accent sur les objectifs à long terme, etc. Fatalisme. Alors, ces travaux et ceux de David Harding démontrent tous les deux la diversité que l'on retrouve à l'intérieur d'un milieu pauvre. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent? C'est que ceux qui sont conscients, ceux qui ont une vision plus positive de leur environnement, c'est ceux dont la famille a été impliquée dans la création de ce Public Housing Project, qui était un projet de collective empowerment, qui était de dire ça va être l'environnement dans lequel les Portoricains de Boston vivent et c'est un environnement qui est le nôtre et où on peut s'exprimer culturellement, on organise un festival annuel, etc. Alors, ils lui ont associé des significations culturelles que les autres ne connaissent pas. Alors, c'est une explication qui a à voir avec leur trajectoire sociale. David Harding, lui, a analysé la signification qui est associée avec la maternité hors du mariage Et il trouve qu'en fait, il y a beaucoup plus de diversité dans la façon dont les pauvres de Boston que lui a étudié, à travers lesquels ils perçoivent cet état de maternité hors du mariage, chez les pauvres que chez les gens de la middle class. Alors, est-ce que c'est une honte ou est-ce que ça peut être aussi un objet de fierté? Alors, chez les gens de la middle class, avoir des enfants hors du mariage, c'est en général une honte, surtout chez les jeunes. Ils n'ont qu'un schéma culturel à travers lequel ils comprennent cette réalité, alors que chez les pauvres, c'est beaucoup plus diversifié et ils sont capables de voir quels sont les côtés positifs compte tenu des conditions dans lesquelles ils vivent. Et lui utilise aussi le concept de frame. Le concept de narrative, je vous en ai déjà donné un exemple quand j'ai évoqué le travail de Sharon Hayes, Flatbroke with Children. Moi, je n'ai jamais étudié les pauvres. Par contre, j'ai fait le livre que Nicolas a mentionné, intitulé « The Dignity of Working Man », « La dignité des travailleurs », était basé sur des interviews en profondeur avec des ouvriers à Paris et à New York, noirs et blancs à New York, maghrébins et blancs ici dans la banlieue de Paris. Et le titre s'explique parce que dans le contexte du livre, je demandais à mes interviewés qu'est-ce qui constitue, comment définissez-vous une vie bien vécue? What defines the value of people? What is a worthy life? Et j'analyse les critères d'évaluation dont ils se servent pour définir cette vie. L'argument du livre, c'est de dire, dans tous les cas, ils définissent une vie bien vécue à travers des critères moraux, qui est de dire, si tu t'occupes bien de tes enfants, si tu payes tes factures, si tu fais ton possible pour être responsable, etc., ça te permet de te mettre au-dessus des gens des classes moyennes. Alors, « The Dignity of Working Man », ça veut dire, et le sous-titre, c'est « Morality and the Boundaries of Race, Class and Immigration ». Alors, je montre comment est-ce qu'ils se servent de leur définition de leur « moi » moral pour tracer des frontières raciales, des frontières de classe et des frontières par rapport aux immigrants dans les deux pays. L'argument du livre était que, c'est un livre qui est sorti en 2000, alors ça fait quand même 10 ans, c'était de dire qu'il y a des frontières très fortes par rapport aux Noirs et aux pauvres dans le contexte américain. Par contre, les immigrés sont acceptés comme étant... si les immigrés poursuivent l'American Dream, ils sont acceptés comme... On leur donne un cultural membership, c'est-à-dire qu'on les accepte comme membres à part entière de la communauté symbolique. Mais c'est des interviews que j'avais faites au début des années 90. Alors, on pourrait parler des transformations de la société américaine depuis. Dans le contexte français, l'argument, c'était de dire même type d'arguments moraux, sauf qu'on trouve des frontières très fortes par rapport aux immigrés qui sont, à l'époque, surtout des immigrés maghrébins, qui sont vus comme refusant de s'intégrer, comme traitant mal les femmes, comme exagérant, comme étant beaucoup trop... comme tirant plus que leur part légitime de ressources de l'État, surtout. Alors que les Noirs... Et les pauvres doivent être intégrés au nom de la solidarité. Alors, on me parle des Noirs à ce moment-là, et là, les différences avec ce que Hugues trouve 20 ans plus tard sont quand même assez frappantes. On me disait, mais les Noirs, ça n'a rien à voir. Ils sont français comme nous, présumant qu'on parlait évidemment des Antillais plutôt que des Noirs africains. Et les pauvres, évidemment, il faut les accepter parce que le marché est par définition injuste. Et cette année, c'est eux qui sont au chômage. L'année prochaine, ça va être moi. Alors, les questions d'autonomie que Nicolas Devoux traite dans son livre sur l'autonomie des assistés est beaucoup moins importante au début des années 90 quand je fais mes interviews qu'elle l'est quand toi, tu fais tes interviews. Alors, ce qu'on trouve, c'est en fait des modèles de constitution de la communauté symbolique qui sont définis de façon très, très différente et aussi avec des frontières symboliques très marquées entre le groupe dominant et le groupe dominé dans les deux pays. Aux États-Unis, les Noirs se définissent comme ayant un « caring self ». Ils disent « les Blancs, de toute façon, c'est des exploiteurs, c'est des dominateurs, ils ont un « moi discipliné ». Ils peuvent bien discipliner, mais c'est des salauds, parce qu'ils n'ont aucune notion de solidarité. Et chez les Français, on retrouve un peu la même chose avec une notion de supériorité chez les Maghrébins qui est aussi ancrée dans un refus des valeurs modernes, etc. Alors, moi, je me sers beaucoup du concept de « boundary work », qui est le traçage des frontières, et j'analyse comment la constitution de l'identité de groupe est véhiculée à travers le... Et que ces frontières symboliques sont essentielles pour la création de frontières sociales. Alors, il y a une littérature importante qui a explosé au cours des 10 dernières années, qui est justement sur la création de frontières symboliques, relations entre frontières symboliques et frontières sociales. Qui, il n'y a pas vraiment de parallèle, je pense. C'est pas une littérature qui existe vraiment dans le contexte français. Alors, ça a été ma contribution à cette littérature, qui était plutôt de voir comment est-ce que les pauvres sont construits différemment dans les deux sociétés et comment est-ce qu'on se sert de répertoires culturels différents pour les construire, les cadrer dans les deux pays. Alors, un des arguments, c'est que dans le contexte français, si on peut avoir une certaine solidarité par rapport aux pauvres, c'est à cause de l'influence continue des répertoires culturels liés au catholicisme, au socialisme et au républicanisme. Alors que aux États-Unis, les répertoires ayant à voir avec la solidarité sont plus ou moins absents depuis 1975-1980, depuis que Reagan a brisé les syndicats des aiguilleurs au niveau de l'industrie aéronautique. Alors, il y a vraiment une transformation profonde des répertoires culturels qui sont disponibles dans les deux contextes. Alors, pour vous donner un autre exemple de là où on peut aller avec le type d'analyse qu'on produit, j'ai été impliquée depuis 2003 dans un grand projet de recherche interdisciplinaire qui s'intitule « Successful Societies ». Alors, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est « Successful Societies ». Est-ce qu'on peut parler du succès relatif des sociétés? Quand on nous a, c'est un projet qui est subventionné par le Canadian Institute for Advanced Research, et quand on nous a approché pour nous demander de co-diriger ce projet, j'étais un peu sceptique parce que je me disais, est-ce qu'on peut vraiment comparer les sociétés en termes de leur succès relatif? J'étais pas du tout convaincue. Mais en fait, tout comme les autres membres du groupe, qui incluent des gens comme Will Kimlicka ou l'historien culturel William Julius Wilson ou Anne Swidler, c'est un groupe très très multidisciplinaire. J'ai été séduite par l'idée et je me suis intéressée à la question de comment est-ce que l'accès des répertoires culturels ou des politiques publiques peuvent créer des conditions où la définition collective de la communauté symbolique peut être plus ou moins élargie ou ratissée. Alors, une société, par exemple, qui inclut les pauvres comme, ou les immigrés ou les minorités raciales comme des groupes qui méritent d'être embrassés comme membres de la communauté, ça serait un des critères par lesquels on pourrait juger du succès relatif des sociétés. Alors, on s'est mis d'accord dans notre groupe d'utiliser comme critère de définition du succès relatif les facteurs de santé, mortalité infantile, longévité. Et on sait, par exemple, que dans le contexte américain, les disparités raciales au niveau de la santé sont incroyables. Et c'est les gens qui analysent l'effet du racisme sur la santé ne prennent jamais en considération ces questions de reconnaissance. Alors, nous, ce qu'on veut faire, ou ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de créer une synthèse entre les travaux de Charles Taylor ou Nancy Fraser et ces travaux qui sont faits, conduits par des épidémiologues, qui ont des outils quand même assez limités pour travailler sur les questions d'identité. Et chez les psychologues qui travaillent sur les questions d'identité aussi, on parle de l'importance d'avoir une identité raciale forte, mais on n'analyse pas du tout quelles sont les conditions institutionnelles et qui vont supporter des répertoires culturels plus inclusifs. Alors, c'est ce genre de questions qui me travaille. En d'autres mots, j'ai travaillé sur les questions de la pauvreté, mais j'aime dire « outside in », c'est-à-dire d'analyser quelles sont les conditions institutionnelles et culturelles qui permettent de soutenir un concept de soi qui va être beaucoup plus positif et qui va donner un sens de bien-être défini de façon très générale aux pauvres, aux victimes de la stigmatisation, etc. Alors, on vient juste de terminer l'introduction d'un deuxième livre qui s'intitule « Social Resilience in the Age of Neoliberalism », qui fait la même chose dans le sens où on analyse quels sont les « buffers », quels sont les tampons, les parachutes dont les pauvres, auxquels les pauvres peuvent avoir accès, ou tous les gens qui font face à de nouveaux défis à cause du développement du néolibéralisme. Et ce sont des tampons qui sont institutionnels et culturels par nature et qui sont généralement pas analysés dans la littérature sur le néolibéralisme. Alors, on s'intéresse non seulement... Il y a une énorme littérature, évidemment, qui dénonce le néolibéralisme. Nous, on dit que le néolibéralisme, il y a deux côtés de la médaille. Chez les Noirs américains que j'ai interviewés, le néolibéralisme est très bien. Parce que ça leur permet de dire, oui, moi aussi, je peux faire de l'argent. Oui, je suis noire, mais je peux m'acheter une Rolls-Royce aussi. Alors, il y a des outils de déstigmatisation qui sont rendus beaucoup plus facilement disponibles pour eux que ce n'est le cas dans, si on vit dans une société qui est seulement basée sur l'inscription. Et on a un projet qui compare la réponse des minorités raciales, des groupes stigmatisés au Brésil, aux États-Unis et en Israël, qui démontre comment est-ce que ces répertoires ont des effets différents sur des populations des classes moyennes et ouvrières. Chez les Noirs au Brésil, aux États-Unis, et chez les Éthiopiens noirs émigrés en Israël, ainsi que sur les Mizrahi et les Arabes israéliens. Alors, c'est vraiment, c'est un exemple de comment est-ce qu'on peut analyser les conditions de réponse à la stigmatisation, y compris la pauvreté, en attaquant non pas le problème directement, en d'autres mots, pour comprendre les pauvres, il faut analyser non seulement les pauvres, mais le contexte structurel et culturel dans lequel ils vivent, et comment est-ce que ces contextes contraignent et activent différentes potentialités. Ici, je m'inspire des travaux d'Anthony Giddens qui dit « enables and constrains ». Alors, comment est-ce que la situation dans laquelle les gens vivent leur permettent, ouvre et ferme des ouvertures? Et c'est une approche qui est quand même très différente, par exemple, de ce que Bourdieu fait au niveau de l'analyse des différents types de capitaux, parce que la dimension de reconnaissance est cruciale dans notre analyse, qui est beaucoup moins présente chez Bourdieu. Alors, je pense que je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup.